Bonjour à tous. Bienvenue à chacun d'entre vous, les jeunes, les moins jeunes, les bien connus, les moins bien connus, les inconnus. Avec votre bonne humeur ou votre mauvaise humeur, bienvenue à chacun d'entre vous. Bonjour à vous tous, mais à nous tous. Avec nos désirs, avec nos différences, nos plaisirs à nous retrouver, mais aussi nos difficultés à nous accepter les uns les autres tels que nous sommes. Chacun parfait, ou plus ou moins bancal. Nous sommes enfants d'un même Père, le Dieu de Jésus-Christ. Nous sommes de sa famille. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Jésus-Christ est notre paix. Il nous a réconciliés avec Dieu. Soyons donc en paix les uns avec les autres. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes là devant toi ce matin parce que chacun, nous avons besoin de toi. Besoin de sentir que tu es là, pas seulement dans notre tête, mais dans tout notre être. Nous nous remettons chacun devant toi, nous te remettons aussi les personnes qui sont chez elles, qui nous suivent avec le streaming. Nous te remettons les enfants et leurs moniteurs. Que ta bénédiction soit sur chacun d'entre eux. Que ta parole soit portée par ton Saint-Esprit dans notre cœur. Afin que nous sachions de quel amour tu nous aimes. Merci Seigneur pour tout. Amen.
Bonjour à chacun. Je vais lire dans deux textes pour introduire la louange. Dans Psaume déjà 145 qui dit « Mon Dieu, mon roi ». Je veux chanter ta grandeur. Je veux te remercier toujours et pour toujours. Tous les jours, je veux te dire merci et chanter ta louange. Toujours et pour toujours. Chaque génération vantera tes actions à la suivante. Elle racontera tes exploits. Et je redirai combien ta gloire est magnifique. Je répéterai tes actions étonnantes. On parlera de ta puissance terrible. Et moi, je raconterai les choses extraordinaires que tu as faites. Et dans l'autre texte qui est dans Ésaïe, il dit « Ils pousseront des cris de joie pour acclamer la majesté de l'Éternel. Ils chanteront de joie à l'Occident, à l'Orient. Ils proclameront la gloire de l'Éternel. » Alors que ce matin, ensemble, en communauté, on puisse élever ce nom, cette grandeur, cette majesté que lui seul est. Alors je vous invite ce matin à vous lever déjà. Et qu'on puisse dire cette grandeur qu'il est.
Majesté, avec la majesté.
Seigneur, ce matin. Et que maintenant on puisse chanter cette nouvelle, Seigneur, que ce chant puisse s'élever ce matin. Que nos yeux se tournent vers toi. prochain chant, je ne sais pas si vous le connaissez, mais vous allez l'apprendre ce matin. Il ira bien avec le thème de Philippe, qui dit « Il y a un seul corps et un seul esprit. » Et je le ressens ce matin. Il y a une espérance, un seul Seigneur, qui est Jésus. Alors on va le prendre ensemble, on va l'entamer. On y va. J'invite Philippe à venir. Tes mains, te le bénir. Et ouais, que tu puisses, à travers lui, donner ce que tu as envie de nous partager ce matin, Seigneur. Alors, je te demande de le renouveler aussi dans ses forces, dans qui il est, et que, ouais, qu'on puisse être aussi ouvert, nous, ouvre notre cœur à recevoir ce matin. Amen. Et juste avant, On va prendre ce chant qui va introduire aussi ce culte, non, ce message, pardon.
Que Seigneur soit visité par ta sainte présence. Que Seigneur soit balayé par le vent de ton esprit. Lève-toi de tes cendres et descends.
Puisse notre chant prière être entendu, n'est-ce pas? C'est Jésus en personne qui a dit ceci. Je bâtirai mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je bâtirai mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. À plus forte raison, un méchant virus. À plus forte raison des mesures sanitaires contraignantes qui nous cassent les pieds, il faut bien le dire. À plus forte raison la dispersion des chrétiens et les tiraillements même entre chrétiens qui ont parfois de quoi nous inquiéter. Que le Seigneur nous garde. Même si nous n'avons pas aujourd'hui la possibilité de nous retrouver exactement dans les mêmes conditions qu'en tout début d'année 2020, eh bien l'Église continue d'exister. et le Christ continue de l'aimer, de la bâtir, de la garder. Il n'a pas changé d'un iota. Nous varions, les circonstances varient, mais le Christ ne varie pas. Ce qu'il a commencé de faire, il le mènera à bien. Il n'est pas dépassé. Cette église, l'église du Seigneur Jésus, elle existe de par la volonté de Dieu. Elle existe de par la croix de Jésus-Christ. Elle existe de par le don du Saint-Esprit. C'est donc le Seigneur tout entier, Père, Fils et Saint-Esprit, qui y est engagé. Quand on fait du caté, il nous arrive d'apprendre des credos anciens. C'est pas rien, hein, le credo, le symbole des apôtres. Et le symbole des apôtres dit « Je crois en l'Église ». C'est dans les toutes premières paroles de l'Église, il y a des siècles. Je crois en l'Église. Croire en l'Église dans sa dimension universelle et intemporelle. Croire en l'Église. Aimer l'Église. S'investir pour l'Église. Ce n'est pas une option pour les chrétiens. Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. Nous ne pouvons décemment pas faire à moins que lui. C'est pas possible. Il a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Nous aussi, donc, nous devons l'aimer. Même quand elle n'est pas des plus aimables? Est-ce que nous devons l'aimer même quand elle n'est pas des plus aimables? Oui. Christ a aimé l'Église même quand elle n'est pas des plus aimables. Et il s'est donné pour elle. L'aimer, donc, chercher son bien. Et chercher le bien de l'Église, c'est commencer par chercher son unité. Et c'est dans ce contexte que nous allons lire un court passage dans la lettre que Paul adresse aux chrétiens et aux chrétiennes de la région d'Éphèse. Nous lisons, merci Anne-Claude, Éphésiens 4, 1 à 6.
Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit, dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit pour tous et qui est en tous.
Conservez l'unité de l'esprit. Efforcez-vous, nous dit l'apôtre, de conserver l'unité de l'esprit. Et je pense que c'est là une phrase qui est plus significative qu'il n'y paraît comme ça en première lecture quand nous glissons d'un verset à l'autre. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. On conserve quelque chose qui est déjà là. Il ne s'agit pas de créer quelque chose. Il ne s'agit pas d'inventer quelque chose. Il ne s'agit même pas de rechercher quelque chose. Il s'agit de conserver quelque chose qui est déjà là. De le garder en bon état. C'est à ça que servent les conserves, hein ? Une conserve, ça sert à garder quelque chose qui existe et à le garder en bon état. Il s'agit ici de garder l'unité de l'esprit. C'est-à-dire de conserver l'unité que le Saint-Esprit lui-même crée et donne. Il a créé l'Église le jour de la Pentecôte. Quand 3000 personnes d'origine juive se sont converties à Jésus-Christ. Quelque temps plus tard, le Saint-Esprit a présidé à l'ouverture de cette Église envers les Samaritains, les Romains, les païens. Entrez dans l'Église. Et le Saint-Esprit fait encore aujourd'hui même de tous ceux et celles qui appartiennent à Jésus-Christ des membres de son Église. Un seul corps. Quelques comparaisons pour nous aider à comprendre à combien cette idée est unique. Ce n'est pas comme un projet de fusion entre deux syndicats. Ce n'est pas comme un projet de fusion entre deux partis politiques. À Genève, on a connu ça, hein ? Ce n'est même pas comme un projet de fusion, comme il y a une vingtaine d'années, entre les AESR et les Églises libres qui ont donné l'affrée. Que des syndicats, des partis politiques ou des unions d'Églises se fédèrent et créent des entités nouvelles, il n'y a pas de mal à ça. Mais ce n'est pas là l'unité de l'Église de Christ. L'unité de l'Église de Christ, elle est déjà donnée. Ce n'est pas non plus comme la réconciliation entre des ennemis. Ce n'est pas la France et l'Allemagne, De Gaulle et Adenauer. Ce n'est pas comme la Palestine et Israël. Cette poignée de main entre Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres. Ce n'est pas comme la fin d'un conflit au travail ou un conflit dans la famille. Dans l'Église, en Christ, la réconciliation entre les peuples, la réconciliation entre les gens, elle existe déjà. Les chrétiens sont déjà frères et sœurs. Ce n'est pas un truc à créer, ce n'est pas un truc à rechercher, ce n'est pas un truc à catéchiser. Ça existe déjà. Cela ne dépend donc pas de notre bonne volonté, cela dépend de ce que Christ a fait pour nous. Il s'agit de conserver l'unité que donne l'Esprit. Cette unité, permettez-moi de vous dire que je sais de première main qu'elle peut être mise à mal. Des bisbilles, des batailles, des divisions dans l'Église, j'en ai connu, en veux-tu, en voilà, comme la plupart d'entre vous. Je sais donc que l'unité, elle peut être mise à mal. Je sais qu'elle peut être altérée, qu'elle peut être obscurcie, qu'elle peut être corrompue par le péché, par l'ignorance et par l'erreur. Mais, dans son principe, l'unité, elle est parfaite, elle est éternelle et elle est assumée. Sur la terre des humains, nous autres, nous pouvons vivre cette unité de manière plus ou moins imparfaite. Et c'est paradoxal. Mais c'est le genre de paradoxe qu'on trouve dans la Bible. J'aime bien la Bible, elle est paradoxale. Quand, par exemple, on lit « Vous êtes morts au péché, faites donc mourir le péché en vous. C'est paradoxal. T'es mort au péché, puis tu dois le faire mourir. Ben ouais, mais ça marche ensemble. C'est paradoxal, puis ça marche ensemble. Ou alors, vous êtes ressuscité avec Christ, mais vivez en nouveauté de vie. C'est paradoxal. Vous êtes ressuscité, mais vivez en nouveauté de vie. Comment donc pouvons-nous préserver et favoriser l'unité? Ça, c'est la vraie question. Comment pouvons-nous préserver et favoriser l'unité? Paul commence par dire au verset 1, « Je vous demande donc instamment, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. » Je vous demande donc. Pour les passionnés du grec, c'est le petit verbe, le petit mot « oun », donc. C'est un mot de liaison. C'est une conjonction de subordination. Vous aimez ça? Alors on va être concret, c'est de la grammaire, c'est nul. Ouais, mais c'est nul, mais en même temps, ça me dit un truc. Je vous demande donc. Je vous demande à cause. À cause de quoi? Pourquoi est-ce que cet apôtre nous demande donc de nous conduire d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé? Il nous le demande donc à cause de la richesse de la grâce de Dieu, à cause du salut en Christ, à cause du don de l'Esprit, à cause de l'unité que le Christ a forgée entre les Juifs et les non-Juifs. Il nous le demande pour faire court, à cause de l'immensité de l'amour de Dieu. C'est parce qu'il y a l'immensité de l'amour de Dieu que nous sommes invités à nous conduire d'une manière digne de l'appel qui nous a été adressé. Ce n'est pas dans le genre « montrez-vous digne de l'amour de Dieu et puis Dieu vous aimera peut-être ». C'est plutôt « Dieu vous a aimé, soyez à la hauteur ». Soyez à la hauteur. Arrêtez vos enfantillages, arrêtez de tourner autour de votre nombril. Visez l'unité, parce que Dieu vous a tellement aimé. Soyez à la hauteur de cet amour-là. Et la façon la plus évidente de montrer qu'on a commencé à comprendre l'Évangile, on est en route, hein, vous et moi, bienvenue au club, on est en route. Mais la façon la plus évidente de montrer qu'on a commencé de saisir l'Évangile, c'est que nous commençons à aimer comme Dieu nous a aimés, à pardonner comme Dieu nous a pardonné, à patienter avec les autres comme Dieu patiente avec nous. Et l'apôtre dit, soyez toujours humbles, empreints de douceur, patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ok, facile à écrire, difficile à vivre. Il y a des efforts à faire. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Soyez toujours humbles, empreints de douceur, patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Soyez toujours humbles. Ça, c'est une qualité essentielle de la marche avec Dieu. Elle est souvent mise en opposition, cette qualité, avec l'orgueil. Plusieurs fois dans l'Écriture, vous retrouvez ce petit verset. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Le prophète Michée a écrit, « On te l'a enseigné, ô homme, ô femme, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. » Michée 6, verset 8. L'humilité, ça veut dire que nous ne cherchons pas à défendre notre réputation. Nous ne cherchons pas à défendre nos droits. Nous ne cherchons pas à défendre, à protéger notre statut. Nous ne cherchons pas à nous valoriser. Nous ne prenons pas ombrage pour un oui ou pour un non. Nous ne voyons pas chez les autres la volonté de nous ignorer, de nous dénigrer, de nous rejeter. On cherche donc à distinguer le meilleur et pas le pire. On peut être en désaccord profond avec quelqu'un et ne pas le détester. Soyez humbles. Et puis avec douceur, cherchez la paix et pas le conflit. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a des conflits qui sont nécessaires, que parfois il faut monter au créneau. Par exemple, contre l'injustice, pour le bien des autres, contre le racisme qui gangrène la société, contre une société exclusivement masculiniste. Parfois, il faut aller au conflit. Puis en même temps, on sait bien qu'il y a des gens qui n'existent qu'à travers les conflits. Ils ne vivent que pour contredire les autres, pour se montrer plus forts que les autres. Ils veulent toujours qu'il y ait des gagnants et des perdants, et que les gagnants, ce soit toujours eux. On connaît des gens comme ça. Mais la Bible me dit que pour être fort, il faut être doux. Pour être fort, il faut être doux. Philippiens 4, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Qu'est-ce que les gens qui nous connaissent retiennent de nous? Notre force, notre capacité de percussion, nos compétences, nos dons, nos talents, le fait qu'on peut en jeter aux yeux à n'importe qui, tout ça, c'est du flan. Ce qui doit être connu de nous, c'est notre douceur. Je n'ai pas besoin d'écraser les autres pour exister. Je peux me permettre de tendre la main. Je peux me permettre de chercher ce qu'il y a de vrai dans les idées de l'autre. Je peux me permettre de l'écouter, de le respecter. Je n'ai jamais besoin de le caricaturer ou de grossir le trait. Je peux l'aimer tel qu'il est, même quand je ne suis pas d'accord avec lui. Dirions-nous jamais que Jésus-Christ était un faible? Est-ce que le Christ était un faible? Certainement pas. Et pourtant, il s'est opposé avec force à ceux qui enfonçaient les autres, et en particulier les religieux. Et en même temps, dans ce contexte, il dit « Je suis doux et humble de cœur ». Ça, c'est mon modèle. J'en suis loin, très loin. Mais c'est mon modèle. La patience et la force font partie de la douceur. Je ne sais pas vous, mais moi je tolère assez facilement mes propres défauts. Et puis souvent je ne les vois même pas. Il faut que ce soit mes enfants, ma femme, mes amis, des chrétiens, des frères et sœurs, une collègue qui mettent le point dessus. Puis quand je les vois, mes défauts, généralement, je me pardonne. Parce que souvent, je me dis qu'avec le temps et la grâce de Dieu, ça va aller mieux. Et puis je pense que ce n'est pas trop faux de faire comme ça. Mais si je fais ça avec moi, est-ce que je peux le faire par rapport aux autres? Est-ce que je suis capable de dire que les autres aussi sont en chemin? Qu'eux aussi sont à l'école de la sainteté, qu'ils sont encore des apprentis comme moi et pas des maîtres. Et puis dans le prolongement de la patience, Paul dit « Supportez-vous les uns les autres avec amour. » Supportez-vous les uns les autres. Bon, dans le monde du sport et sous l'influence de la langue anglaise, le verbe supporter, ça signifie plutôt soutenir, encourager, suivre, militer en faveur d'une équipe ou d'une star. J'espère que Servette va enfin gagner cet après-midi. 4-1 ? Je retiens, merci Claude. 4-1. Un Lugano, hein ? C'était un vrai supporter, Claude. Mais ici, dans le grec, je suis désolé, ça n'a pas tout à fait le même sens. Dans le grec, c'est plutôt patienter, endurer, prendre sur soi, pour ne pas envoyer promener quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord, quelqu'un qui vous agace. Franchement, on ne va jamais avoir des atomes crochus avec tous nos frères et sœurs. Il y aura toujours des choses qui nous indisposent chez les autres. Mais l'amour, c'est de supporter quelques irritations sans rejeter la personne. C'est pardonner à ceux qui nous énervent. C'est respecter cet homme, cette femme, pour qui Jésus-Christ a versé son sang et avec qui, devant la croix, nous sommes sur un pied de totale égalité. Nous pouvons simplement prier pour ceux ou celles que nous avons du mal à supporter. Que Dieu les bénisse. Que la lumière du Christ les inonde. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre de guérison chez eux comme chez nous. J'ai des problèmes avec quelqu'un ? Ouais, ça arrive. Alors, est-ce que j'en parle partout autour de moi, soi-disant en toute discrétion, pour me poser en victime et pour rallier des soutiens ? Est-ce que je mijote une riposte ? Est-ce que je rumine ? Est-ce que je garde de la rancœur, de l'amertume ? Ces trucs qui vous filent le mal au ventre. Ben non, j'en parle à Dieu. Puis je prends le temps de le faire. Puis au besoin, je rencontre la personne. Puis si besoin, je peux faire appel à un tiers, à un responsable d'église pour faciliter des échanges. Mais en tous les cas, je fais 1000 efforts, 10 000 efforts pour conserver l'unité de l'esprit dans les liens de la paix. Si nous avons tous reçu le même appel en Christ, si nous avons tous reçu son esprit, si nous sommes tous et toutes en paix avec Dieu grâce à Jésus-Christ, alors l'unité n'est pas à créer, elle est à conserver. Au prix d'un certain effort, c'est vrai, mais cet effort va dans le sens de ce que Dieu a fait pour nous et fait encore pour nous. Bon, ce que j'ai dit jusqu'ici, et je vais rapidement conclure, ça s'applique surtout à l'Église dans sa dimension locale, très concrète, très incarnée. L'Église évangélique de Mérin, ou celle dont vous êtes membre. Paul, à la fin du chapitre 3, il avait parlé de la gloire de Dieu dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations. Puis il passe de cette vision glorieuse de l'Église universelle à la vie dans une communauté locale. Et ensuite, il évoque le fondement de l'Église, fondement qui vaut pour la vie d'une communauté comme pour l'Église éternelle. C'est dans ces versets 4 à 6 que nous avons lus et que nous avons chantés. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. Vous et moi, quand nous avons été baptisés, si vous ne l'avez pas encore été, il faut venir me voir. On va organiser des baptêmes rapidement maintenant, parce qu'il y a du monde qui attend. Mais quand nous avons été baptisés, et quand vous serez baptisés, pour vous qui attendez un baptême. Nous l'avons été au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, hein ? Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas une formule magique. Il n'y a pas un truc bizarre qui se passe à l'intérieur à ce moment-là. Hein ? C'est une manière de dire que nous prenons sur nous le nom de Dieu, que nous portons désormais sur nous le nom de Dieu. Que nous sommes intégrés dans tout ce que Dieu a révélé de lui-même. Il y a donc un seul nom. Il y a un seul Dieu. Ce n'est pas primo au nom du Père, deusio au nom du Fils, tertio au nom du Saint-Esprit, par ordre décroissant. Dieu d'abord, Jésus, ok, le Saint-Esprit, on verra bien. C'est pas ça, hein. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu en trois personnes, selon la formule consacrée. Un seul Dieu et Père, un seul Seigneur, sous-entendu, comme c'est dit dans le chant qu'on a chanté, Jésus-Christ. Un seul baptême, un seul corps, ça veut dire une seule Église, une seule espérance, une seule foi. Ça, c'est la foi d'Abraham, celle qui a cru en la promesse de Dieu. Il n'y a pas de catégorie de chrétiens. Ça n'existe pas. Ça, vous avez dans la société, en veux-tu, en voilà, toutes les catégories. Dans l'Église, non. Les catégories, ça s'éteint. Il n'y a pas de catégorie de chrétiens. Nous avons tous la même destinée. Voilà la base de notre unité entre chrétiens. Et c'est une base extrêmement solide. Localement, pour travailler ensemble, il faudra des accords plus larges. Mais pour reconnaître et aimer un frère, ou une sœur, Paul pose là une base incontournable. Souvenez-vous, quand nous avons prié pour Asia Bibi, quand nous prions aujourd'hui pour des chrétiens persécutés en Chine, au Pakistan, en Afghanistan, en Égypte, on ne cherche jamais à savoir si ces chrétiens sont catholiques, protestants, coptes ou orthodoxes. On n'en a rien à carrer. Ils souffrent pour le nom du Christ. C'est nos frères et nos sœurs. Et nous sommes solidaires avec eux. Je conclue. Sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ça, c'est Éphésiens 2. C'est ce que nous sommes. De pauvres petites choses qui avons eu besoin que la grâce de Dieu se déploie sur eux. Faire partie d'un seul et même corps, ça c'est Éphésiens 4. La suite dira que dans ce corps, il y a diversité de dons. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler bientôt. S'il y a diversité, et Dieu qu'elle est belle, cette diversité. S'il y a diversité, nous n'allons pas nous comparer, nous jalouser les uns les autres. Nous allons valoriser la diversité. Nous allons faire des efforts pour conserver l'unité que donne l'Esprit dans les liens de la paix. Nous allons mettre l'accent sur le fait d'appartenir, malgré nos différences, au même Dieu, notre Père. C'est tellement bienfaisant. Et puis surtout, notre méditation doit nous pousser à louer le Seigneur pour tous ces miracles individuels, qui font qu'aujourd'hui, nous sommes un en Christ. Que le Seigneur bénisse son Église. Amen.
Thank you.
nous serons tes témoins jusqu'au bout de la terre. Nous aurons la puissance pour vaincre la chair avec ton esprit, avec ton esprit.
J'ai commencé ce culte en évoquant notre plaisir de nous retrouver ou de notre difficulté à nous accepter les uns les autres, tous plus ou moins imparfaits ou bancals. Philippe nous dit « La réconciliation entre les peuples, entre les gens, est déjà là. Cela ne dépend pas de notre bonne volonté. Cela dépend de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. » Voici la table de la scène. Il y a le pain, le corps de Jésus donné pour nous. Il y a le vin, le sang de Jésus versé pour nous, pour la nouvelle alliance avec Dieu. Comme les grains de blé étaient dispersés dans les champs et forment maintenant un pain, nous tous, chacun différent de l'autre, nous sommes réunis en un seul corps autour de cette table et aussi dans le monde entier. Nous sommes un seul corps, le corps de Jésus-Christ. L'unité est parfaite, éternelle, assurée. Pas facile à vivre sur cette vie, sur cette terre. Mais souvenons-nous, nous sommes aimés. Nous sommes aimés et c'est avec ce capital que nous pouvons être à la hauteur et travailler à la bonne relation entre les croyants de notre communauté et les croyants du monde entier.
Nous prions. Seigneur, nous nous approchons de cette table à laquelle tu nous invites, fort de ton amour, fort de ta grâce, fort du prix que tu as payé pour que nous n'ayons pas à le payer. Merci pour ce qui est acquis. Merci pour ce que nous pouvons conserver, construire ensemble. Et j'aimerais te dire ma reconnaissance pour tous ces miracles individuels, mes frères et mes sœurs, dans toute leur diversité. Tu nous as sauvés. Tu nous as rassemblés. Nous voulons le fêter, nous voulons nous le remémorer. Accorde que ce temps, que ce pain, que ce vin vienne nous traverser de part en part pour que nous mesurions encore ce que tu as fait pour nous. En Jésus. Amen.
En Corinthiens 10, les versets 16 à 17. Pensez à la coupe du repas du Seigneur. Ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ? Et le pain que nous partageons, ne nous met-il pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Aussi, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain. Ce sont nos mains qui ont préparé la table, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Nous allons passer dans les rangs avec les corbeilles de pain et les plateaux de jus de raisin. Je vous invite à prendre chacun un morceau de pain, un petit gobelet, et à attendre que tout le monde soit servi pour prendre tous ensemble la scène.
Il y a un seul Dieu, un seul baptême, une seule foi. Nous sommes tous de la famille de Dieu. En communion avec les chrétiens du monde entier, je vous propose de prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Les annonces, Joanne, merci.
Bonjour à tous. Alors les annonces, ça fait partie de cette grande famille, avec les activités qu'on a dans cette grande famille. Et puis... un petit mot pour supporter. Un supporter, c'est aussi quand une équipe ne gagne pas, il faut supporter pendant un certain temps. Donc le sens, jouer en tout cas pour Servette, pas pour les autres équipes. Mais... pour les annonces, je propose qu'Anne-Marie commence avec les paquets de Noël.
Bonjour. Déjà, on commence la confection des paquets la semaine prochaine. Alors, je signale juste qu'il y a un changement de date. Au lieu du mercredi 3 novembre, on va faire les paquets déjà demain, donc à partir de 17h. S'il y a une ou deux personnes qui veulent se rajouter à nous à partir de 17h pour une ou deux heures de temps, on va sûrement faire les paquets jusqu'à 20h, 20h30, on verra. Donc s'il y a encore des personnes qui seraient disponibles demain à partir de 17h, vous pouvez soit venir vers moi, soit vous inscrire sur le tableau qui est dans le foyer. Ensuite, c'était le dernier délai normalement pour aujourd'hui pour amener les affaires, mais si des personnes auraient encore des jeux, jouets pour enfants à donner, vous pouvez encore les apporter dimanche prochain, mais alors impérativement les déposer en bas avant le culte, parce qu'on va faire les paquets avec les enfants dimanche prochain. Donc comme ça, les enfants pourront finir des paquets et mettre tout dans leur paquet. Et on cherche encore une personne pour nous aider vendredi après-midi pour préparer pour la confection des paquets par les enfants. Il y a pas mal de choses à préparer pour qu'après ça roule quand les enfants sont là. Donc là, vous pouvez venir aussi vers moi si vous êtes disponible vendredi après-midi à partir de 14h. Et on a encore les tirelires à disposition, les boîtes en carton, si vous voulez encore soutenir pour aider pour tout ce qui a déjà été acheté pour les paquets. Merci beaucoup.
Merci. Pour cette semaine, donc jeudi, nous avons la rencontre du conseil à 19h ici à l'église. Vendredi 5, le caté à 17h. Et puis, est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire deux mots sur Georges Muller ? Claude ?
Oui, alors c'est effectivement la dernière semaine pour commander vos billets pour sur le site des Fabricants de Joie pour la comédie Georges Muller. Donc les préparatifs sont en train de se finaliser. Les bénévoles qui se sont annoncés, on va bientôt les contacter pour leur donner leur rôle. Mais je vous encourage vivement, pour ceux qui ne l'ont pas ou celles qui ne l'ont pas encore fait, de réserver votre billet, d'acheter votre billet sur leur site. Vous verrez que c'est une comédie qui est vraiment à la portée de aussi bien des enfants que des adultes. Et je crois qu'il y a un message d'espérance et aussi d'unité, un exemple, un témoignage qui nous encourage chacune et chacun. Donc réservez aussi la date si vous avez déjà pris vos billets. Donc n'oubliez pas, c'est samedi, soit à 15h30, soit à 20h. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, laissez-vous tenter par cette belle comédie qui porte un message. Merci.
Les gâteaux, on les laisse.
Alors, vous pouvez les amener samedi matin au forum ou bien au centre œcuménique. Donc, les deux possibilités, samedi matin. Merci.
Alors, encore un dernier point. Dimanche prochain, ce sera un culte organisé par le groupe Mission en lien avec l'Église persécutée. On aura la joie de recevoir Jean-François Negrini. Et puis le groupe Mission, vous l'avez déjà entendu la semaine passée, propose de faire une collecte spéciale pour l'Église persécutée en plus de la collecte traditionnelle que nous avons, avec une boîte qui sera mise à disposition à la sortie de l'Église.
Avant la bénédiction, on va faire un chant de bénédiction. Je vous invite à vous lever. Avec le groupe de louanges, on a envie de vous bénir ce matin et pour la semaine.
Que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher. Chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. que sa fave reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés. Quel est immense être pour un, il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque repas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Il est pour toi, il est pour toi.
En Corinthiens 13, au verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit soient avec vous tous et toutes. Allez en paix, belle nouvelle semaine. Amen.